chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette série concernant le psaume 51. Or, ces études sont hors du commun. Et il est possible que, si vous êtes un chrétien débutant, ce sera peut-être pas tout facile de suivre, de comprendre. Ça pourrait même peut-être vous poser quelques questions désagréables. Et pour éviter cela, je voudrais simplement vous dire, pourquoi pas écouter un tel message une deuxième fois. C'est pas défendu. Notez que moi-même, malgré mon très grand âge, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et restons humbles et disons-nous simplement, eh bien oui, nous n'avons jamais fini d'apprendre. Nous arrivons donc à l'étude numéro 3 concernant la série du psaume 51. Nous pourrons donner comme titre « Dieu efface tous nos péchés ». J'ai dit que c'est ardu et on pourrait faire cela beaucoup plus simplement en contractant, donc en diminuant 50% de l'étude pour essayer de la simplifier pour ceux qui ont de la peine. Mais l'Esprit Saint m'a donné dans le cœur de donner cela aussi pour ceux qui ont toutes les capacités de suivre ce genre d'études. Chers amis, ne doutons aucunement que ce que Dieu ne veuille user de miséricorde et de compassion envers les pauvres et misérables pécheurs qui sont désolés à cause de leurs péchés, comme il veut aussi faire sentir sa colère aux pécheurs endurcis et sans repentance. C'est là la théologie que cette parcelle de notre psaume veut nous apprendre quand David dit « Et selon la grandeur de tes gratuités, efface mes forfaits. » J'ai pris cela dans ma Bible allemande, mais vous trouverez aussi tout à fait semblable. Les mots hébreux dont David se sert sont remarquables. Ces mots signifient beaucoup, une multitude. On s'en sert pour dénoter une quantité étendue. Le mot est souvent exprimé dans le Nouveau Testament par bienfait. Comme l'apôtre Paul dit, dans 1 Timothée chapitre 6, que les serviteurs doivent être soumis à leur maître fidèle, d'autant qu'ils sont participants du même bienfait de l'Évangile comme eux, c'est-à-dire de la même grâce. Ils se tournent aussi quelquefois par le mot d'amour. Ou si vous voulez, il utilise quelquefois le mot d'amour. Et l'interprète grec le tourne ou l'utilise par miséricorde, comme dans ce passage de Osée chapitre 6. Je veux miséricorde et non point sacrifice. C'est-à-dire, je veux que vous exercez la bienveillance et la charité les uns envers les autres, et c'est ainsi qu'il utilise ou qu'il tourne aussi un autre passage, « Aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. » Notre français dit « selon ta gratuité ». L'autre terme signifie, quand on revêt un esprit clément et bénin, non plutôt un esprit clément, excusez-moi, et bénin, qui ne veut point regarder et avoir égard au péché, mais qui veut le pardonner. Avez-vous bien compris? Je répète, notre français dit, à la place de miséricorde, dit parfois gratuité. L'autre terme signifie quand on revêt un esprit clément et bénin, qui ne veut point regarder et avoir égard au péché, mais qui veut le pardonner, qui veut l'oublier. Comment ce passage qui dit « J'aurai compassion de qui j'aurai compassion », c'est-à-dire « Je pardonnerai et j'effacerai le péché ». Voyez donc comment David conjoint admirablement bien ces deux choses, savoir que Dieu, premièrement, a pitié de nous, qui nous fait du bien, quoique nous ne le méritons pas, et ensuite, qui nous pardonne nos péchés, lequel pardonne, nous embrassons par la foi, par la force de l'Esprit Saint de Dieu, et en conséquence des promesses. Car si Dieu n'agit avec nous par pure grâce, sans mérite de notre part, il n'y a nulle satisfaction qui puisse valoir. Et ainsi, nous n'avons aucun moyen de subsister devant lui. Nous jeûnons, c'est-à-dire si nous commençons à faire un long jeûne, jeûner, ce sont nos œuvres, et tous les anges même ne pourraient pas nous donner le salut par ça. Mais le seul moyen de salut qui nous reste, c'est d'avoir recours à la miséricorde et de chercher auprès de Dieu pardon et grâce, de sorte qu'il ne regarde point à nos péchés et à nos transgressions, mais qu'il les excuse et qu'il agisse avec nous selon la grandeur de ses compassions, sans quoi nous ne sommes pas dignes que Dieu nous donne une heure de vie de plus, ni même une bouchée de pain. Dieu est donc un Dieu juste. Et moi, et oui, moi je suis un misérable pécheur. Ainsi Dieu ne peut pas manquer d'être irrité contre moi. Voilà donc des épines que la conscience ne peut pas arracher par ses propres forces et ne peut pas représenter à l'homme pécheur un Dieu propice et favorable. Mais c'est l'opération et c'est le don du Saint-Esprit et non de nos forces naturelles, car sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit Saint de Dieu, où nous endurcissons nos cœurs encore plus dans le péché, où nous tombons dans le désespoir, qui sont deux écarts également contraires à la volonté de Dieu. Donc, David se jette entre les bras infinis de cette vaste et immense miséricorde de Dieu en disant « Tes compassions, ô Éternel, sont infinies et en grand nombre. » Mais moi, je suis un misérable pécheur qui a mal vécu, qui vit mal et qui serai pécheur pendant que je vivrai. Si donc je veux subsister devant toi, il faut, oui, il faut que j'y apporte d'autres pensées que celles que mon cœur me suggère. Je confesse devant toi donc mes péchés, qui sont grands, mais en confessant mes péchés, je reconnais aussi que tes miséricordes et tes compassions sont infiniment plus grandes que mes péchés. Et cette justice par laquelle tu justifies les pécheurs est beaucoup trop infinie pour me laisser désespérer dans mes péchés. Or, en disant que les compassions de Dieu sont en grand nombre, il oublie et met de côté toute sa propre sainteté et celle de tous les hommes, car quelle communication peut-il y avoir entre la multitude des compassions et la sainteté humaine? On peut aussi dire sans la soi-disant sainteté humaine, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont saints. Si donc les compassions sont si grandes et doivent être si grandes pour sauver l'homme, il n'y a nulle sainteté en lui qui le puisse soutenir. Et c'est une chimère qu'un homme soit saint, comme c'est aussi une fiction qu'un Dieu soit pécheur, car ni l'un ni l'autre ne, on peut dire, ne se trouve dans la nature, dans l'univers. Et c'est pourquoi il faut bien entendre ces vieux titres qu'on donne à quelques-uns quand on les nomme saints, comme par exemple Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jérôme, etc., qui sans doute étaient des pécheurs. Et à proprement parler, il n'y a que Dieu qui soit saint. Mais ceux que nous appelons saints le sont simplement devenus par une justice et par une sainteté étrangère, à savoir par la sainteté de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la sainteté de la pure miséricorde de Dieu. Car comme l'apôtre Pierre était saint, ainsi le suis-je aussi, et comme je le suis, ainsi l'était le larron sur la croix, rappelez-vous. Car en cette sainteté, tous les fidèles sont un, il n'y a donc point de différence entre eux, et il n'importe point que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul aient fait de plus grandes choses que moi ou que toi. Il suffit donc qu'eux et nous soyons tous pécheurs de notre nature et que nous ayons besoin de la miséricorde et des compassions de Dieu, car quoique les apôtres soient moins tombés que nous dans des péchés extérieurs, pourtant ils sentaient souvent dans leur cœur les aiguillons de la persécution. Ils sentaient souvent du dégoût, des mouvements de défiance et d'éloignement de Dieu et d'autres pensées qui sont des suites de l'infirmité humaine, de sorte qu'il n'y a dans la nature de l'homme rien de saint, rien de bon, comme ce psaume qui dit « Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, et voici, il n'y en avait pas un qui fit le bien, non pas même un seul. » Psaume chapitre 14. Que s'il n'y en a point de bon et de saint parmi les fils des hommes, où sont-ils donc? Ne parlons donc point de sainteté et de saint, mais voici les vrais sanctifiés, savoir ceux qui, pécheur impénitent et insensible devienne pécheur repentant, et ainsi ils deviennent sensibles, qui ne présument rien de leur propre justice, qu'ils reconnaissent n'être qu'une chimère, et qui commencent à avoir un cœur illuminé pour se connaître et pour connaître Dieu, savoir que tout ce qui vient d'eux est mauvais et corrompu, et qu'il faut qu'ils soient pardonnés et couverts par la miséricorde gratuite et les compassions de Dieu. Il faut donc nécessairement que nous et tous les saints, nous nous rejetions dans ce sein de la miséricorde, ou bien il faut être perdu et damné. C'est pourquoi aussi Dieu a envoyé son Fils bien-aimé au monde, afin qu'il manifestât ses compassions de Dieu et cette excellente doctrine de la miséricorde que dans sa nature le cœur de l'homme ignore. Et c'est cette doctrine que David nous propose quand il confesse ses péchés et que pourtant il a recours à une miséricorde plus grande que ses péchés. Que tous les hommes donc apprennent à chanter avec David ses paroles « Ô Dieu, aie pitié de moi !» Qu'ils se reconnaissent pécheurs et qu'ils sachent que Dieu est juste, c'est-à-dire miséricordieux, et il est enclin à justifier le pécheur repentant. Cette confession de notre misère et de la miséricorde de Dieu, c'est un sacrifice à Dieu auquel David nous invite, car il veut que cette doctrine qu'il nous propose soit généralement reçue dans tout l'univers, que quand le diable où notre conscience nous accuse sur nos péchés, nous avions et confessions librement que nous avons de grands péchés, mais que pourtant, oui, pourtant, nous ne désespérions pas pour cela. Car quoique nos péchés soient grands et en grand nombre, nous apprenons ici que la miséricorde de Dieu et ses compassions sont grandes et en grand nombre. Et c'est donc avec ces armes-là que tous les saints se sont de tous les temps défendus contre Satan et ses démons, de sorte que, quoique ils aient été pécheurs, pourtant par cette connaissance, ils ont été sanctifiés selon cette parole d'Ésaïe qui dit « Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. » Ésaïe, chapitre 53. En entendant ceci, nous croyons au premier abord qu'il n'y a rien de si facile à pratiquer. Mais je vous assure qu'il y a ici de la peine et qu'il faut du travail pour pratiquer ceci dans l'heure de la tentation. Oui, ce n'est pas d'une chimère qu'il s'agit, il s'agit du malheur éternel, et c'est pour le salut d'une âme immortelle qu'on combat, et dans ces moments-là, on sent non seulement la conscience qui se récrie et qui ne veut point admettre de miséricorde, mais aussi Satan nous met dans l'esprit mille pensées, des pensées de mort à cause des péchés que nous avons commis. Ainsi se dire, se sentir, se reconnaître pécheur, et pourtant ne point tomber dans le désespoir, ça c'est une efficace divine et une opération de la grâce. Mais nous n'éprouverons jamais cette efficacité comme font nos adversaires, nous voulons externuer, c'est-à-dire nous voulons exterminer le péché. Mais voici ce qu'il faut faire. Il faut voir la grandeur et la laideur du péché. Et il faut le sentir et le confesser tel qu'il est. Mais en même temps, il faut se laisser convaincre par le Saint-Esprit que la miséricorde est infinie et inépuisable, comme David le dit, selon la grandeur de tes compassions, efface mes iniquités. Il faut remarquer ce mot effacer dont David se sert ici et que l'apôtre Paul emploie aussi en Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'obligation qui était contre nous. Et l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 3, repentez-vous afin que vos péchés soient effacés, soient éliminés, soient oubliés. Ce terme veut nous faire comprendre que le péché est écrit dans nos consciences avec le burin de fer de la loi. Et David demande que, comme on raye ou on efface une écriture d'une tablette, que ainsi ses péchés soient effacés et rayés de sa conscience et de devant les yeux de Dieu. Mais pourtant, d'une telle manière que la gratuité et la connaissance ne manquent pas de s'en suivre, car les péchés sont pardonnés et ôtés d'une telle manière qu'on n'oublie pas d'en rendre ses actions de grâce, comme ceux dont l'apôtre Pierre dit qu'ils avaient oublié que leur vieux péché avait été effacé et que par leur incrédulité et leur ingratitude, ils accumulent de nouveaux péchés, comme nous voyons aujourd'hui le monde plein d'un mépris déplorable pour l'évangile de Dieu et de toute justice. Dans de pareils cas, le péché n'est pas effacé, mais il est gravé et empreint de plus en plus dans le cœur. David, donc, dans ses paroles, il entend ces deux choses, que ses péchés soient abolis, ôtés et effacés, et que le Saint-Esprit lui soit donné afin de pouvoir résister au péché et le détruire. Mais en ce qu'il fait seulement mention de l'efficacement et de l'abolition du péché, il veut nous apprendre par là comment nous sommes justifiés, à savoir par la pure et simple impunition de la justice de Jésus. Lorsque par la grâce les péchés sont effacés et que pour l'amour de Jésus nous sommes reçus en grâce. Comparez donc cette doctrine avec les songes creux de la science humaine et vous verrez combien peu ils ont compris et démontré la salutaire doctrine de la rémission des péchés et de la véritable justice. Psaume 51, verset 4. Lave-moi tant et plus de mon iniquité et me nettoie de mon péché. Jusqu'ici, David a demandé grâce et il a demandé la rémission des péchés. Et il a cherché la faveur de son Dieu, demandant qu'il pardonna et à lui et à nous tous, et qu'il effaça le péché par sa grande miséricorde, car c'est ici la première chose et le premier pas qui se doit faire après la connaissance du péché, à savoir de recevoir et d'embrasser la grâce de Dieu, d'avoir un Dieu propice et favorable, et en nous jetant dans le sein de la miséricorde de Dieu, de mettre notre confiance aux glorieuses promesses que Dieu nous fait de sa grâce et de son amour. Ce sont donc ces promesses que les anciens avaient aussi bien que nous, ils les avaient dans un Messie promis, comme nous les avons dans le baptême, et d'un Rédempteur venu. Dans ces paroles où il demande d'être lavé de son péché, il nous propose une autre distinction du péché que nous avons déjà mentionné, car nous avons distingué entre le péché qu'on sent et le péché qu'on ne sent point, comme il y a deux sortes de pécheurs, des pécheurs sensibles à leur péché et repentants, et des pécheurs endurcis et impénitents qui, étant dans l'aveuglement et dans la sécurité, ne sentent point leur péché. Ici, David nous montre que ce péché qu'on sent peut être considéré sous un double point de vue, car il peut l'être ou comme péché pardonné et couvert par la grâce, ou comme péché qui est encore restant en la chair dans laquelle il se fait sentir. Les péchés considérés comme remis et pardonnés, c'est quand le Saint-Esprit nous assure que Dieu, malgré nos péchés, ne veut point nous abandonner pour l'amour de Jésus-Christ, mais qu'il veut nous regarder en ses compassions, quoique nous soyons de pauvres pécheurs misérables et perdus. Cette idée seule du péché, elle ne suffit pas, parce que nous retombons souvent dans le péché et nous voudrions non seulement que le péché fût remis, mais qu'il fût entièrement aboli. C'est-à-dire que la chose même qui est péché demeure et reste encore en la chair des enfants de Dieu, et qu'elle est pardonnée et supportée par la patience de Dieu, quoique elle ne soit pas entièrement morte, car la tête du serpent est bien brisée, il est vrai, par Jésus-Christ. Mais pourtant, sa langue se fait encore boire, et sa queue se remue aussi pour nous piquer et nous endommager. Voyez-vous, le péché ne peut donc plus nous condamner quand la miséricorde et la grâce de Dieu règnent sur nous, ni nous rendre les objets de son indignation et de sa colère. Il demeure pourtant encore dans les âmes justifiées, il demeure des restes du péché. Et il prie pour l'entier nettoiement et la parfaite libération du péché, de même qu'il l'avait fait pour la rémission et le pardon. Voici donc la seconde partie de sa demande, qui nous montre, comme j'ai dit, une seconde division du péché, à savoir que Dieu veut effacer le péché en le pardonnant et l'ôter quant à sa condamnation et à sa force, et non quant à la chose même et à la nature inhérente du péché. La force du péché, c'est d'accuser, c'est de condamner, de ronger et de blesser la conscience et d'ôter la paix de l'âme en nous mettant devant les yeux un Dieu en colère et les peines de l'enfer. C'est cette force du péché qui est abolie et ôté par la miséricorde gratuite de Dieu, mais les restes demeurent encore dans l'âme. Ainsi voici deux choses également véritables qui paraissent pourtant contradictoires, à savoir qu'un vrai chrétien n'a aucun péché et que pourtant, oui, pourtant, tous les vrais chrétiens ont des péchés. C'est donc de là que naît cette distinction du péché, qu'il y a dans les enfants de Dieu un péché pardonné et couvert, et un péché encore inhérent qu'il faut tous les jours, tâcher d'extirper et s'efforcer de nettoyer de plus en plus. Le péché pardonné, c'est celui qui est aboli par la foi et par la confiance en la miséricorde, afin qu'il ne puisse plus accuser et condamner, mais qui cependant cherche toujours à regermer, et oui, et qui combat dans nos membres pour tâcher de se produire comme il faisait auparavant, et pour nous jeter dans la sécurité, dans l'ingratitude et dans le mépris de Dieu, comme nous étions auparavant. Voilà donc les efforts des restes du péché demeurant en nous, que les saints et les âmes justifiées sentent, mais qu'ils surmontent par la force du Saint-Esprit, de sorte qu'ils n'obéissent point au péché dans ses convoitises. Ainsi, une âme justifiée par la foi ne doit pas se laisser aller à la sécurité, ni croire qu'elle soit pure de tout péché. Au contraire, c'est dès lors qu'elle doit entrer dans une lutte constante et continuelle contre ce péché et contre ces méchants restes dont le prophète demande ici d'être lavé et nettoyé, c'est-à-dire par la pure miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Cette miséricorde n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas une qualité ou une habitude qui serait attachée au cœur, mais c'est une faveur de Dieu et une grâce qui nous est donnée par la connaissance réelle de l'Évangile par lequel nous apprenons et nous croyons que nos péchés nous sont remis par la grâce et par les mérites de Jésus-Christ et par l'expérience et la confiance que nous mettons en ses grandes compassions et en ses gratuités infinies dont parle notre prophète. Une telle justice est sans doute une justice étrangère qui consiste dans la charitable indulgence et dans la bonté de Dieu et qui est un don de Dieu qui nous regarde gracieusement en Jésus-Christ. Cela peut s'éclairer par cette similitude, si quelqu'un avait mérité un supplice de mort et que le prince relâcha ce criminel et lui pardonna son crime, n'est-il pas vrai qu'il n'y aurait pas dans sa libération, il n'y aurait rien de son propre mérite, mais que ce serait la pure grâce et la bonté de son prince qui en serait la seule cause, car quant à lui, il n'a rien mérité que la mort. Mais son prince ne lui remet pas seulement sa peine, mais il le met en liberté. Il délie ses liens, lui fait donner des habits et même de quoi s'entretenir et se nourrir dans la suite. C'est ce qui arrive à une âme qui est justifiée, car par la miséricorde de son Dieu, elle est libérée, libérée de la peine qu'elle avait méritée. Elle reçoit donc de plus le don du Saint-Esprit qui la nettoie de plus en plus du péché et qui l'assiste enfin qu'elle ne succombe pas sous les efforts du péché et sous les concupiscences qui combattent dans sa chair. Comme le dit l'apôtre, elle mortifie par l'esprit les œuvres du corps et vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Mais la plupart de nous vivons dans une telle sécurité qu'on dirait que nous sommes tout esprit, que nous n'avons plus de chair. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous apprenions à sentir que nous avons encore la chair pécheresse et que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de combattre contre cette chair afin qu'elle n'exécute pas ce qu'elle désire. Ainsi, un chrétien n'est pas justice d'une justice qui vienne de son propre fond et qui soit une qualité inhérente en lui, mais il est juste seulement par la miséricorde de Dieu et par la rémission des péchés que reçoivent tous ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui croient que Dieu leur est propice et favorable pour l'amour de Jésus-Christ qui s'est donné pour nos péchés et que nous embrassons par la foi. Quand nous avons été faits participants de cette justice, eh bien nous avons ensuite besoin de ce nettoiement dont notre texte fait mention, de cette purification qui demande à Dieu. Oui, car quoique le péché ne condamne plus, eh bien il demeure pourtant encore. Il combat, il nous empêche sans cesse d'être enflammés d'amour pour notre Dieu, de croire en lui avec une pleine confiance de cœur, comme nous le souhaiterions par les bons mouvements de l'esprit que nous avons reçus. Il nous empêche de vivre aussi justement, aussi débonnairement et aussi paisiblement que nous le désirerions, de sorte que presque tous nos membres s'en infecte de quelque péché qui combat contre la loi de Dieu. Si donc nous ne nous opposons ici, et si nous ne combattons avec beaucoup de violence et de zèle, il est à craindre que nos péchés ne se fortifient en nous, ne nous entraînent de nouveau dans notre première impiété, comme de tristes exemples ne le prouvent, hélas, bien trop souvent, dans ceux qui, après avoir embrassé l'Évangile, en sont déchus et sont devenus beaucoup pires qu'auparavant, et comme aussi les erreurs des différentes sectes que nous voyons le témoignent. Ils croient que leur raison ne peut pas les tromper, et que leur chair n'est plus vivante et ne peut plus les séduire. Ils croient cela. C'est contre ces pensées de sécurité qu'il est bon de se servir de cette prière de David, lequel, après avoir demandé la miséricorde de son Dieu pour la rémission de ses péchés, prie aussi que Dieu le lave de ses iniquités, que Dieu lui donne son Saint-Esprit, que Dieu le munisse de ce don et de cette force céleste, afin qu'il purifie et nettoie son cœur des restes des péchés qui sont encore en lui, lesquels commencent à être ensevelis par le baptême, mais ne sont pourtant pas encore tout à fait abolis. C'est pas parce que nous sommes baptisés que tout est automatiquement aboli. Voici donc la vie d'un vrai chrétien, comme elle est décrite, Colossiens chapitre 3, verset 2. Que nous cherchions les choses qui sont en haut, comme étant morts au monde, et ayant notre vie cachée avec Christ en Dieu, et comme l'apôtre Paul le dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 8, non, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 7, que nous nous purifions de toute souillure du corps et de l'esprit, par où il indique qu'il reste encore en lui et dans les enfants de Dieu de pareilles souillures, à savoir de fausses opinions, de fausses pensées, des imaginations, ainsi que des passions et des convoitises, on peut dire des convoitises de la chair, et que le travail et l'étude des enfants de Dieu doivent être avec l'aide de l'Esprit Saint afin d'être purifiés de ces souillures de plus en plus. Mais ceux qui se croient saints et sans ces souillures, ils s'enfoncent de plus en plus dans le mal, perdant la foi et ne conservent que de fausses opinions qui peuvent ressembler, il est vrai, à la foi, mais qui ne sont pourtant que des illusions de Satan par lesquelles ils sont entraînés insensiblement à l'impiété et à abandonner la vérité et la parole de Dieu. On a bientôt dit « Je crois en Jésus-Christ, mais c'est une chose bien difficile et qui demande un grand travail que d'avoir cette foi bien plantée dans le cœur, parce que non seulement les souillures de l'esprit sont restées en nous, mais que la chair et le diable ne cessent point de tâcher de nous ravir cette foi et de nous porter à abandonner la parole pour nous laisser conduire à nos propres lumières et à nos opinions. C'est de là que viennent les sectes et les hérésies qui ont pour nous une haine mortelle, qu'elles croient pas être une haine, mais elles croient que c'est un zèle divin, de sorte qu'elles ne tâchent guère de se laver ou de se laisser laver de ce péché, bien au contraire, elles l'accroissent tous les jours. Mais pour nous, tâchons de nous laisser purifier tous les jours de plus en plus. Oui, chers amis, afin que nous devenions toujours plus purs, que le nouvel homme se renouvelle de jour en jour et que le vieil homme s'affaiblisse et s'approche de sa mort totale pour notre satisfaction. C'est pour exercer les chrétiens réels dans cette carrière et dans ce combat que Dieu permet non seulement que l'Église soit affligée de diverses calamités temporelles, mais qu'il s'y lève aussi des sectes et des hérésies qu'il exerce, qu'il la réveille et lui donne plus de zèle pour s'attacher plus fermement à la parole de la foi et à se purifier de plus en plus des restes de péché par la sanctification. Car c'est pour cela que le Saint-Esprit est donné aux croyants, afin qu'ils combattent en nous contre les forces apparentes de notre sagesse, qui veut sans cesse s'élever s'élever, oui, contre la justice de Dieu. D'ailleurs, cet esprit doit aussi nous exciter à la prière, à nous occuper au devoir de charité envers tous et surtout envers les serviteurs de la foi, afin que ainsi nos âmes et nos corps soient dans un continuel exercice du bien et que par là nous avancions sans cesse dans la sainteté. Il est donc vrai, et c'est une confession que tous les vrais chrétiens font sincèrement, qu'ils sont encore pécheurs. Oui, nous resterons, croyez-moi, pécheurs jusqu'à notre mort, que nous le croyons ou pas, car où il y a encore besoin de purification, il faut qu'il y ait encore des souillures. Mais ceux qui n'entendent point cette doctrine de l'Esprit-Saint ne savent rien ici. Ils regardent toutes ces choses comme des chimères et ne sauraient comprendre comment il peut être vrai que l'apôtre Paul soit saint et pourtant il dit qu'il est encore pécheur à cause du péché habitant encore en sa nature. Et voilà pourquoi il nous déserte comme des hérétiques, voyez-vous. Et les sectes nous menacent du fer et du feu, mais qu'ils nous répondent sur ce que dit ici cet excellent psaume, si connu même parmi eux. Pourquoi David, après avoir demandé la grâce et la miséricorde de son Dieu, c'est-à-dire après avoir obtenu la justification, pourquoi David demande encore d'être purgé et lavé? Car David, qui avait la rémission de ses péchés et qui par conséquent n'était sous l'accusation et sous la condamnation d'aucun péché, pourtant, oui, il se confesse encore impur et a encore le péché qui a tous les caractères de péché, excepté celui-ci, qu'il ne condamne point. Excepté donc qu'il ne condamne plus et ne peut point le condamner. Avez-vous bien compris cela? Ainsi David, quoique juste et justifié, il a encore le péché et par conséquent, il est en partie encore injuste. C'est pourquoi il demande instamment le don excellent du Saint-Esprit pour nettoyer ses souillures restantes encore en lui. Car nous aurons des souillures restantes en nous jusqu'à notre mort. Et certes, ce dont l'Esprit fait bien voir que cette délivrance n'est pas une petite chose et une chose facile, mais que nous devons prendre garde de ne pas atténuer ces restes de péché ni en faire peu de cas, car si nous les atténuions, si nous pensons que nous pouvons les atténuer, nous ne nous soucierons pas beaucoup de celui qui doit les laver et les effacer en nous. Et nous ne demanderons pas ce don que David demande ici avec ardeur, qui est le Saint-Esprit. Mais le prophète nomme proprement ses restes. Il les nomme péché, il les nomme iniquité, quoique ce ne soit pas un péché comme c'était auparavant, c'est vrai, puisque la force lui a été ôtée et que la tête lui a été brisée par le pardon et par la rémission. Alléluia. Et c'est pourquoi le prophète ne dit pas seulement « lave-moi », mais il ajoute tant et plus, encore. C'est-à-dire, lave-moi aujourd'hui, demain et pendant toute ma vie de ces souillures de corps et d'esprit, afin que je devienne tous les jours plus fort et plus assuré contre les terreurs de la loi, jusqu'à ce que je sois, ô Seigneur, une pleine certitude de ta miséricorde. Avez-vous bien compris ? David dit, lave-moi aujourd'hui, lave-moi aussi demain, et lave-moi pendant toute ma vie de toutes ces souillures de corps et d'esprit, afin que je devienne tous les jours plus fort et plus assuré contre les terreurs de la loi, jusqu'à ce que je sois, ô Seigneur, une pleine certitude de ta miséricorde. Voilà donc l'excellente doctrine de ce psaume qui doit nous servir d'étude continuelle et dans laquelle nous ne serons jamais des maîtres achevés et consommés. Personne même n'a jamais été parfait en cette science, mais tous ont dû et doivent encore demander sans cesse avec David pendant toute leur vie, purifie-moi, ô Dieu, tant et plus de mon iniquité. Amen. Chers amis, j'aimerais maintenant vous donner quelque chose que le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous transmettre pour votre édification personnelle et pour vous encourager. Demain, Dieu voulant, nous continuerons cette étude très ardue et je vais prier pour que ma voix puisse être plus claire, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que l'Esprit Saint me montre de vous transmettre. Écoutez bien, Jésus est toujours avec vous pour vous diriger, vous bénir et vous aider. Aucun être au monde ne saurait empêcher sa volonté à votre égard de se réaliser. Non pas même tout un monde de volonté adverse. À la condition toutefois que vous lui fassiez absolument confiance à Jésus-Christ et que vous lui remettez tout. Au simple passager sur un navire, il peut sembler que chaque vague doive l'engloutir ou le faire dévier de sa course. Le commandant, lui, est instruit par l'expérience et il sait qu'en dépit de la tempête et des éléments déchaînés, il est en état de tenir le cap au port qui lui est assigné. Ainsi, chers amis, vous pouvez lui faire confiance puisque Jésus s'est chargé d'assurer votre salut. Et maintenant, prions ensemble. De faible et mortelle créature, ne peuvent, Seigneur, t'adresser leur hommage et leur prière qu'en s'abaissant profondément devant toi dans un véritable sentiment d'humilité. Que ce soit donc ainsi qu'en ce moment, nous venions te rendre grâce et t'implorer, toi, ô notre Dieu et notre Sauveur, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais tu as daigné nous accorder la grâce si précieuse de reconnaître que c'est toi qui as envoyé ton Fils pour nous racheter de la condamnation et nous faire obtenir la félicité des cieux. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Voilà, Seigneur, ce que nous voyons s'accomplir sans cesse autour de nous. Les enfants du monde haïssent la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Oui, l'aveuglement et le péché subsistent. Comment échapper à ce danger? À ce danger qui pourra nous préserver d'imiter de si funestes exemples? Comment éviter l'ivresse de l'amour du monde, l'aveuglement qui ne permet pas de voir l'abîme ouvert sous nos pas? Réfléchir sérieusement en ta présence, ô Seigneur, penser à la fin inévitable de toutes choses et à l'avenir éternel qui nous attend, implorer ton secours et ta miséricorde, tels sont les moyens que tu mets à la portée de tous pour lutter contre de fatales influences. Ô Seigneur, aide-nous à en faire usage, aide-nous à venir à la lumière en agissant selon la vérité. Donne-nous aussi, Seigneur, le désir de te prier pour ceux qui persistent à demeurer dans l'aveuglement, qu'ils soient saisis de crainte et touchés de repentir, afin que leurs yeux s'ouvrent dans l'éternité, afin que tous embrassent le royaume qui ne peut être ébranlé, que nous conservions la grâce par laquelle nous puissions servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et avec crainte. Seigneur, daigne recevoir notre humble prière au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé, 1962. Ça fait bien un demi-siècle. Et évidemment, on n'avait pas les moyens, je n'avais pas les moyens d'enregistrer avec des appareils parfaits. Et avec le temps, eh bien, les voix, les chants ne sont plus aussi nets. Mais je suis certain que l'Esprit Saint s'y trouve et vous communiquera quelque chose de merveilleux. Et maintenant, vous savez que Dieu vous aime. Oh oui, il aime tous ceux qui ont vraiment compris et qui l'ont accepté. Et je vous dis, si Dieu vous aime, il est de mon devoir de vous aimer intensément, avec toutes mes possibilités, avec tout mon amour. Je vous embrasse maintenant et je vous dis, soyez bénis. Et maintenant, quelques chants de ce lointain passé.
But still, tomorrow never comes. His saving hand reached down for you to bring you peace and make you free. Though other voices try to tell you that God
darkness becomes light.
My sword and shield.